France Culture, il est 16h. Tout de suite, la marche des sciences. Aurélie Luneau.
C'est très difficile d'être à la fois scientifique et littéraire. Eh bien, faites de l'histoire des sciences et vous serez les deux.
J'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue, c'est la marche des sciences.
Je me souviens que le 3 août 1914 après-midi, je me trouvais près de la préfecture de Rennes. J'ai vu un cycliste en sortir et m'apercevant, il me dit « C'est la guerre ». Depuis un an, on la sentait imminente, tout en gardant l'espoir qu'elle n'aurait pas lieu. Mais la mort du prince héritier d'Autriche à Sarajevo fut le signe que les chefs autrichiens et allemands attendaient et qui déclencha cette affreuse tuerie qui devait durer 4 ans. Effectivement, après que le cycliste fut dirigé vers la mairie, j'entendis la grosse horloge sonner le tocsin, suivi du glas de toutes les églises de la ville.
Il n'en avait plus parlé, ni à sa femme, ni à ses enfants. Cette grande guerre, Pierre Croc l'avait vécue dès l'âge de 20 ans, alors jeune instituteur mobilisé en 1914, blessé à Verdun en mars 1917. Les douleurs, physiques et surtout psychiques, les souvenirs obsédants, il gardait tout cela en lui, jusqu'à ses confidences faites à son petit-fils au milieu des années 60. Au sortir de la guerre, la France avait honoré ses morts, 1 350 000, glorifié les survivants, parmi lesquels 3,6 millions de blessés, appelés à se reconstruire à l'image du pays. Mais au-delà des blessures physiques, qu'a-t-on fait pour soulager les troubles psychiques de ces soldats français? Ces chocs psychologiques, honteux, inavouables, voire même douteux pour une hiérarchie qui avait besoin d'hommes, la psychiatrie de l'époque en a-t-elle seulement tenu compte? Ces blessés psychiques n'auront leur reconnaissance officielle en France qu'en 1992. Un oubli et une affection qui allaient hanter bien des poilus jusqu'à la fin de leur existence. Plus de 50 ans après, poussé par ses 3 fils, Pierre Croc accepta de rédiger ses souvenirs après une étonnante mémoire et ce traumatisme psychique que l'on décèle en filigrane. Grâce à ce document formidable d'enseignement, retour sur cette médecine de guerre, son organisation et la prise en charge émotionnelle et psychologique des combattants en France. Avec en direct sur France Culture, Louis Croc, médecin général, psychiatre des armées et professeur associé honoraire à l'Université Paris 5. Il est auteur du livre « Les traumatismes psychiques de guerre », un livre paru chez Odile Jacob. Il est aussi l'initiateur du dernier ouvrage « De la Somme à Verdun, épreuve d'un poilu de 14-18, souvenirs de guerre » signé par Pierre Croc, qui était son père, un livre édité chez Flammarion. Et avec nous aussi Vincent Viette, historien, rattaché au Centre de Recherche Médecine, Sciences, Santé Mentale, Société. Il est l'auteur du livre intitulé « Pour la science, pour la santé en guerre, 1914-1918, un livre de sciences médicales paru aux presses de Sciences Po. Et comme d'habitude, cette première émission et partie sera émaillée d'archives sonores de l'INA grâce à Anaï Morales et d'extraits des souvenirs de Pierre Croc, lus en direct par Philippe Laudenbach. Et puis en seconde partie d'émission vers 16h45, en partenariat avec la Cité des Sciences et de l'Industrie, découverte de l'exposition « Mental désordre » pour changer de regard sur les troubles psychiques. Et nous en parlerons avec le sociologue et épistémologue Xavier Briffaut. Il est chercheur au CNRS et membre du Haut Conseil de la Santé publique. Également auteur notamment du livre « La fabrique de la dépression » paru chez Armand Collin. Mais tout de suite... 14-18, des traumas de guerre en héritage, souvenir du soldat Croc.
Père Cléhurlu, février 1915. Ma compagnie était installée à l'orée d'un bois de grands sapins, près d'une maison de garde forestier, qui était d'ailleurs dénommée la maison forestière. C'est là que j'eus pour la première fois l'idée de ce que pouvait être réellement la guerre. Un poste de secours était installé dans cette maison, et les infirmiers amenaient sur des brancards des blessés dont quelques-uns râlaient déjà. Du reste, à voir la figure que faisaient les anciens qui avaient participé au combat de Belgique et de la Marne, je compris que l'affaire serait sérieuse. Un sergent me conseilla de me protéger la poitrine avec ma pelle bêche que je glissais sous les bretelles de mes cartouchières.
Bonjour Louis Croc.
Bonjour.
Bonjour Vincent Viette.
Bonjour.
Alors, nous sommes rassemblés aujourd'hui pour justement regarder de plus près ce témoignage livré des années plus tard par Pierre Croc. Donc Pierre Croc, qui était votre père,
oui,
Louis Croc.
C'est mon père.
Et là, il parle du poste de secours, des blessés, première vision de ce jeune soldat, un témoignage donc de votre père. Alors, je rappelle les dates peut-être. Né le 22 septembre 1893, mort le 2 juin 1983, et qui avait été soldat au 124e régiment d'infanterie de Laval, lui qui, à l'origine, était instituteur.
Oui, exact.
Et donc, c'est ce témoignage-là qu'il nous livre, en tout cas que vous nous livrez aujourd'hui, que vous nous révélez, vous et vos deux frères, il l'a écrit alors qu'il avait 77 ans.
Oui, il était très pudique pendant, après la guerre, dans les années 30, mes premiers souvenirs. Je l'ai vu enlever son œil de verre et le poser sur la cheminée, j'avais 4 ans. Et ma sœur me disait en plus qu'il dévissait sa tête. Alors, c'est crédule, mais enfin. Mais autrement, il ne disait rien. À la fin de sa vie, avec une lame de rasoir, une pince à épiler et un flacon d'alcool, il retirait les éclats de grenade qui remontaient dans la surface
de la peau,
des muscles sous la peau. Oui. Mais à nous, à mes frères et moi, ils ne disaient rien. J'ai surpris un jour, il racontait à mon fils, son petit-fils, il disait « toute tranchée perdue doit être prise ». C'est là que j'ai découvert qu'ils avaient des confidences qui m'échappaient, et je lui ai donc demandé avec mes frères qu'ils rédigent cela, ils l'ont rédigé, et avec mes frères nous avons donc ressorti ces extraits, et comme il avait participé à 8 batailles, perte les Hurlus, l'offensive du 25 septembre en Champagne, la main de Massige, etc., et 2 fois Verdun, une première fois en 1916 au pire moment, qui était mai-juin, et une deuxième fois là où il était blessé en 17, j'ai fragmenté ses souvenirs par rapport à ces 8 batailles, et j'ai confronté à chaque fois avec les extraits correspondants du journal de marche de l'unité, tenu par le colonel, qui est sans compassion, très froid, tant de morts, etc., à Verdun, 1000 morts dans la bataille.
Oui, parce qu'un journal de marche est tenu par le chef d'unité, il se veut précis, rigoureux, sans émotion, tenu au jour le jour, voire d'heure en heure.
Oui, oui.
C'est un compte-rendu froid. Et vous le confrontez aussi avec l'historique
du 124e. Avec un autre fascicule, publié probablement en 1920, mais je n'ai pas la date, par un officier rescapé du régiment, et qui est d'un style patriotique et glorieux. De genre, il dit... les balles allemandes ne tuent pas, le lieutenant monte sur le parapet, dit ça à ses hommes, il reçoit une balle en pleine tête. Ce qui n'est pas fait pour leur monter le courage. Mais enfin, c'est genre glorieux.
Voilà. Oui, emphatique, écrit au lendemain de la guerre d'ailleurs, écrit après-guerre, pour honorer aussi la mémoire des disparus. Il y avait ce but-là dans ce genre de documents, et donc glorifier les faits d'armes. Et puis, de ces documents, il y a ce témoignage de votre père, qui est assez étonnant, parce qu'il est précis, mais il est simple, et il est même pudique et j'ai envie de dire sans lamentation.
Oui, c'est 3 écritures pour les mêmes faits. L'écriture comptable et froide du colonel du régiment, l'écriture glorieuse, exaltée, patriotique de l'officier rescapé, et l'écriture humble, modeste de mon père, qui raconte des petites choses, comment ils n'avaient pas à manger, comment ils s'épouillaient, comment en 1916, que les Allemands ont attaqué sa tranchée, il a tellement tiré à vue sur les Allemands, il dit « mon fusil me brûlait les mains ». Les Allemands sont tirés justement parce qu'ils étaient décimés. Donc des choses très simples, et d'autres extraits que vous allez citer certainement, mais enfin,
oui,
je ne vais pas anticiper dessus.
Exactement.
Je signale quand même, c'est L'Harmattan qui a publié son livre, et non pas Flammarion, qui est un des 10 éditeurs à qui j'ai écrit, qui l'ont tous refusé systématiquement.
Et L'Harmattan, effectivement.
Donc L'Harmattan, Odie Jacob non plus n'a pas voulu, mais il m'a publié un autre qui était Les Blessés psychiques.
Parfois, il y a des éditeurs qui font des erreurs. Vincent Viette, justement, sur ce livre-là, qui offre ces 3 documents, intéressants d'ailleurs pour l'histoire. Et donc, dans ce premier texte qu'on a entendu par la voix de Philippe Lodenbach, on entend parler d'emblée le poste de secours, les blessés, première vision de ce jeune soldat.
Oui, alors tout d'abord un mot quand même sur la relation de votre père, hein, que j'ai trouvée absolument passionnante, en ce sens qu'elle fourmille de détails, mais de détails, de ces détails qui font l'essentiel en fait, hein, qui donnent de la chair en fait à l'histoire. Et ça, c'est très important. Moi, j'ai écrit un livre, une sorte de macro-analyse du service de santé, et je n'ai pas ces détails-là en fait. Hein. J'en ai d'autres, j'ai des statistiques, mais cette relation est indispensable à l'historien. Alors, effectivement, pour répondre à votre question, oui. Il est question, donc, dans son témoignage, d'un poste de secours. Le poste de secours, c'est vraiment l'avant-poste du service de santé qui recueille, en fait, tous les blessés, hein, et des blessés qui ne sont pas encore triés, hein. Donc, le premier triage se fait au niveau du poste de secours et souvent dans des conditions absolument dramatiques, car ce poste de secours est en général exposé, hein, aux tirs de l'aviation allemande, de l'artillerie allemande, pardon.
Exactement. Alors quand vous dites trier, c'est-à-dire qu'on met les blessés en catégorie, les récupérables et les non récupérables, c'est ça?
Oui.
D'emblée, dès le début?
Alors non, pas dès le début, effectivement, parce que au départ, c'est la doctrine de l'emballage sanitaire qui prévalait. C'est-à-dire que on emballait de manière très sommaire les blessures et on dirigeait les blessés sur la zone intérieure. Et les blessures qui n'étaient pas débridées avaient toute chance, ni aseptisées, hein, avaient toute chance de s'infecter, mmh, avec un risque de septicémie majeure. Et c'est la raison pour laquelle les amputations ont été très nombreuses dans les premiers mois du conflit.
Et on va y revenir, parce que c'est vrai que c'est aussi toute une organisation et sanitaire et médicale qui doit se mettre en place durant cette grande guerre. Je vous propose de retourner dans ce témoignage laissé par Pierre Croc. Il se trouve à Perthes-lès-Hurlus, février 1915.
Nous devions rejoindre par petits groupes de 5 à 6 hommes le 130e à une centaine de mètres en avant de nous. Et pour cela, parcourir en courant un grand espace découvert sous le feu des mitrailleuses allemandes. Du parapet de la tranchée, attendant mon tour de m'élancer, je voyais mes camarades courir, s'arrêter net, tituber, et s'écrouler au sol, stoppés net par les balles allemandes. Certains se tordaient de douleur. Peu d'entre eux réussissaient à parcourir le terrain découvert et rejoindre les hommes du 130e. Mon tour arrivait, et derrière un camarade, j'avais déjà un pied sur l'échelle pour sortir de la tranchée. À ma grande surprise, le colonel qui observait le terrain à la jumelle ordonna d'arrêter cette course à la mort. Il avait vu que ceux de ces hommes qui avaient réussi à traverser le terrain devaient se compter sur les doigts de la main. Nous attendîmes dans la tranchée. En face, dans leur tranchée, les Allemands ne se montraient guère. Un de mes camarades, jeune recrue comme moi, voulut risquer un œil pour les apercevoir, malgré les avertissements de nos anciens. Mal lui en prit, car il reçut une balle en pleine tête. Nous essayâmes d'appeler les brancardiers derrière nous, mais les fils du téléphone étaient coupés, et il ne put être évacué. Il mourut peu après.
Vincent Viette, là aussi, hein, c'est ce que vous avez pu étudier, c'est ces secours, comment les mettre en place de façon efficace, pas facile sur ce terrain de guerre. Il y a d'autres passages aussi, d'autres moments, témoignages donnés par Pierre Croc, on va y revenir, où il explique qu'il a été touché par une pierre, il doit aller se faire soigner, mais il n'y va pas parce qu'il faut passer aussi dans un tunnel où il est sûr de mourir, donc il préfère rester sur le front. Ce sont des témoignages là par rapport aussi à ce travail des brancardiers.
Oui, alors effectivement, les brancardiers jouent un rôle majeur, hein. Ils opèrent essentiellement de nuit, hein, pour ne pas se faire repérer par les Allemands, et ils transportent dans des conditions souvent déplorables les blessés jusqu'au poste de secours. Mais d'une manière plus générale, si vous voulez, si je parle de l'organisation du service de santé, effectivement, il a fallu du temps pour qu'elle se mette en œuvre. Et il faut vraiment attendre l'arrivée de Justin Godart.
Et oui, radical socialiste.
Radical socialiste.
Qui dirige le sous-secrétariat d'État du service de santé militaire de juillet 1915 à février 1918.
Voilà, et qui va organiser dans un premier temps le service de santé en zone intérieure, puisque la France est divisée en deux zones, la zone des armées et la zone intérieure. Or, entre les deux zones, les relations en fait passent mal, les transmissions, la chaîne du commandement fonctionne très très mal en fait. Et Justin Godart, c'est jusqu'à l'offensive Nivelle d'avril 1917, opposé à un véritable séorté, à un véritable mur. Et alors qu'il avait été nommé par les parlementaires pour mettre de l'ordre, pour assurer la fluidité de la chaîne des évacuations et pour essayer de décrypter ce qui se passait dans la zone des armées. Et si vous voulez, on peut prendre un exemple de défaillance de commandement. Le médecin-chef supérieur des armées, qui contrôlait donc le traitement des blessés à l'échelle de l'armée, soit 94% des blessés, relevait en fait du général directeur des étapes, qui était à l'arrière et qui ne voyait pas ce qui se passait à l'avant. Et le service de santé n'était pas associé aux décisions de stratégie militaire. Et ça, c'est une catastrophe. Il a fallu vraiment attendre que se mette en place l'autonomie du service de santé en mai 1917 pour que le service de santé soit associé vraiment à la stratégie militaire et puisse, en connaissance de cause, prévoir justement le nombre de lits nécessaires et puis les évacuations des blessés.
Alors, Louis Croque, finalement, on se rend compte que là, c'est en 1917 qu'on commence à être un petit peu plus opérationnel ou efficace sur ce terrain-là. Votre père, finalement, jusqu'au bout, parce que lui a été blessé en 17, aura connu cet état de fait, c'est-à-dire que la difficulté aussi d'évacuer les blessés, de voir parfois, comme il le disait dans ce texte qu'on vient d'entendre, des personnes mourir à leur côté.
Effectivement, le poste de secours était une boucherie. Et souvent, les médecins aspirants ou sous-lieutenants qui étaient là étaient tués avec parmi les blessés qui attendaient. Et en fait, à Verdun, il y avait ce poste de secours en première ligne et il y avait le tunnel de Tavannes qui avait 1700 mètres de long, qui a sauté d'ailleurs, il y a eu une explosion à un moment, mais dans lequel il y avait l'infirmerie. Et quand mon père a reçu un jour, il avait l'épaule toute bleue, il a reçu un caillou, il croyait qu'il y avait une fracture, il a été voir le médecin aspirant, qui lui a dit, va au tunnel de Tavannes, t'as pas de fracture, mais je te donne 4 jours à te reposer au tunnel de Tavannes. Et que lui, vu que le chemin entre le poste de secours et le tunnel de Tavannes était arrosé d'obus, il a préféré retourner en première ligne pour être à l'abri.
Et oui, sans être soigné.
Tout à l'heure, vous citiez Perte les Hurlus.
Oui.
La fin de Perte les Hurlus, 4 jours après, le colonel Dubost est parti devant ses hommes, une canne à la main, 30 mètres devant ses hommes, en disant, en avant les enfants. Et il s'est fait tuer au bout de 200 mètres. C'est le premier des deux colonels du régiment qui ont été tués sur le front. Ils avaient beaucoup de courage. Ils n'étaient pas derrière leurs hommes, ils étaient devant les officiers, y compris les officiers supérieurs.
Et dans des conditions qu'on peut rappeler rapidement, mais c'est vrai que cette grande guerre, cette boucherie, puisqu'on l'appelle de cette façon-là aujourd'hui, on connaît les conditions, le froid, le manque de nourriture, les rats, la vermine, le spectacle des chairs humaines, les corps en lambeaux, et puis les gaz et les obus, etc. Et puis aussi, il faut dire qu'il y a des pertes qui ont été dues aux obus français tirés trop courts. Donc tout ça, c'est effectivement, met dans des conditions et un état d'esprit pour ces soldats qui vont être victimes, bien évidemment, de ces traumatismes psychiques qu'on a mis bien du temps à prendre en compte. Je vous propose d'écouter ce texte. À nouveau, votre père, Louis Croque, qui assiste à un spectacle qui va lui rester en mémoire jusqu'à la fin de ses jours. C'est le spectacle du fusillé, pour l'exemple.
Alors que nous étions précisément à Bâconne, je fus témoin d'un spectacle vraiment pénible. On nous informa qu'un soldat du régiment qui s'était dissimulé dans un trou pendant que ses camarades se lançaient à l'attaque, mais avait été dénoncé ensuite par son sergent, avait été condamné à mort par le tribunal militaire. et qu'il serait fusillé en présence du régiment. Nous fûmes alignés sur une esplanade et nous vîmes arriver une voiture cellulaire d'où descendit ce soldat encadré par deux gendarmes. Un poteau avait été dressé et le malheureux y fut attaché à genoux et les yeux bandés. 12 des nôtres, avec leurs fusils, furent placés à quelques mètres devant et au signal de l'adjudant de compagnie, ils firent feu. Sous la décharge, le condamné eut un sursaut et s'affaissa. Puis l'adjudant lui tira un coup de revolver dans la tempe. On nous fit défiler devant son cadavre. Durant tout le temps que durèrent ces préparatifs, le soldat ne fit pas un geste et ne dit pas un mot. De retour au cantonnement, aucun d'entre nous ne proféra de commentaire. Au bout d'une année de guerre, la mort rôdait partout. Les premiers combats avaient dû ébranler bien des nerfs et venir à bout de bien des courages.
France Culture, la marche des sciences.
Aurélie Luneau.
Louis Croc, ce spectacle-là a durablement marqué votre père. Il faut aussi préciser que parmi ces fusillés, on sait aujourd'hui qu'il y avait des blessés psychiques, des traumatisés de guerre non décelés.
Oui, je l'ai signalé dans un autre livre, Les blessés psychiques de la Grande Guerre, publié chez Odile Jacob l'an dernier. Il est certain que surtout en 1914 et 1915, on a fusillé soit des sujets qui étaient commotionnés par l'explosion d'obus, qui étaient en pleine confusion mentale, qui erraient 100 mètres en arrière des lignes, et qu'on a arrêté, condamné rapidement dans une grange et fusillé le lendemain matin. Et on a fusillé également, au Mont de la Marne, des soldats qui ont eu peur. Un groupe de soldats, de 7 soldats, qui s'étaient sauvés, pris de panique. Il y avait un obus allemand qui avait explosé pas loin. Et c'était une panique d'ailleurs d'un régiment voisin qui s'était propagé. Et là, ils sont tombés sur un général qui leur a dit « Je vais vous ramener à votre unité ». En fait, il n'est pas ramené du tout. Il les a fait désarmer et fusiller le lendemain matin.
Oui, puis on connaît aussi des cas de soldats qui en fait avaient reculé pour mieux réattaquer, face à une avancée, et finalement ont été eux aussi condamnés à fusiller.
Effectivement, j'ai plus les noms ici, mais c'est connu. Pour éviter d'être encerclés par un ennemi supérieur en nombre, ont reculé quelques centaines de mètres et ont sauvé leur compagnie. Eh bien, dès le soir, ils ont été arrêtés et fusillés le lendemain matin.
Vincent Viette, faire des exemples pour ne pas laisser le doute s'installer, lutter contre tout refus de combattre, parce que malgré la dureté de ce terrain de guerre, il faut préserver le capital humain. C'est-à-dire, c'est la préoccupation des pouvoirs publics.
Oui, absolument. Il faut absolument récupérer dans le service de santé tous les blessés et malades guéris au profit soit de l'armée, soit des usines de guerre. Ça, c'est la priorité absolue. Et on constate que les taux de récupération ont été absolument stupéfiants, puisqu'on est passé d'un taux de récupération de 79% en 1914, à la fin de l'année 1914, à 91%. 11% en 1918. Alors vous imaginez que les neuropsychiatres, notamment, puisqu'on parle des psychonévrosés, ont travaillé sous la contrainte de cette récupération. Et certains n'ont pas hésité à faire du zèle, à faire du chiffre en quelque sorte. Il faut, à mon avis, nuancer parce que certains étaient la proie du doute et beaucoup de neuropsychiatres ne voulaient pas assumer la responsabilité d'envoyer au peloton d'exécution des psychonévrosés, et notamment ce qu'on appelait les pitiatiques, pour reprendre l'expression de Babinski, qui était un élève de Jean-Martin Charcot, et qui a inventé en fait ce terme pour désigner des psychonévrosés qui n'étaient pas, qui ne présentait aucune lésion détectable, lésion organique, et qui répondait, selon lui, à des phénomènes d'autosuggestion ou de suggestion, et qu'on pouvait ramener à la raison, en quelque sorte, par des thérapies persuasives et particulièrement agressives.
Eh oui, mais je crois qu'il y avait ce qu'on appelait la faradisation, c'est ça? On utilisait aussi des... Hein, Louis Croque, je crois. Hein. En fait, Gustave Roussy fut le plus répressif,
d'ailleurs. Les tableaux cliniques et la psychiatrie ont évolué de 1914 à 1918. Les combats de Belgique, où on a envoyé des compagnies entières en pantalon rouge se faire faucher par les mitrailleuses allemandes, et Brousseau le dit dans La peur aux armées, son livre, il le constate, il dit la discipline est telle que les sujets vont se faire tuer. On a parlé à ce moment-là d'hypnose des batailles. Les survivants erraient dans les fossés, ils tombaient, ils avaient l'œil hagard, on les mettait de nourriture dans la bouche, ils ne l'avalaient pas, on les poussait sur leur lit, ils tombaient sur leur lit, au bout de 4 jours, ils récupéraient. On appelait ça l'hypnose des batailles. Puis après, à partir de novembre 14, les deux fronts, les deux armées sont enterrées dans les tranchées, et à ce moment-là, il y a eu des pilonnages d'artillerie de gros calibre. Les sujets, il y en a qui étaient tués, d'autres, ils volaient dans les airs à 5-6 mètres de haut, ils voyaient les têtes et les membres de leurs camarades, ils retombaient ensevelis ou pas, et c'est là que les Français ont parlé d'obusite, du choc de l'obus, qui était une réminiscence du vent du boulet des armées napoléoniennes. Et puis, les Anglais ont appelé ça shell shock. Et après, les armées des deux camps ont appelé ça shell shock.
Et névrose de guerre, c'est venu après ce terme-là.
Alors, on s'est rendu compte que certains shell shock, qui étaient tout près de l'explosion d'obus, avaient des symptômes commotionnels. Et on pensait d'ailleurs qu'il y avait peut-être des hémorragies méningées. Mais enfin, ils récupéraient en 15 jours. Est-ce que le même obus, la même explosion, celui qui était à 15 mètres de là ou 20 mètres de là, présentait des symptômes anxieux ou neurasthéniques ou hystériques qui ne guérissaient pas au bout de 3 mois? Alors c'est là qu'on a dit, c'est pas du shell-shock, ce sont des névroses de guerre ou des psychonévroses de guerre. Et c'est ici que les élèves de Freud, qui étaient mobilisés dans l'armée allemande, ont parlé de conversion hystérique. C'est-à-dire, il y a une conversion du trauma psychique sur le corps. Et ça se traduit par le fait d'être plié en deux pour pouvoir se relever, qu'on appelle la cantocormie, ou par le fait de se croire sourd quand on n'est pas sourd, ou aveugle quand on y voit bien, ou encore paralysé, ou de traîner la jambe. Il y a eu des quantités comme ça d'hystérie de guerre effectivement, Babinski parlait de pitiatisme. Et Babinski, à un moment, s'est dit, mais il y a peut-être deux sortes de pitiatisme. Il y a les vrais pitiatistes, qui sont ceux qui sont purement psychiques. Et il y a d'autres, il y a peut-être une sidération des influx nerveuses. C'est ce qu'avait dit Oppenheim, qui avait décrit les névroses traumatiques au sujet des accidents de chemin de fer en 1884, et qui était mobilisé dans l'armée allemande en 1916, et qui a dit, c'est pas purement psychique, il y a une sidération de l'influx nerveux. Alors, du point de vue thérapeutique, et je dois signaler quand même, on a essayé le repos, on a essayé de les épouiller, de les reposer quelques jours, faire la suggestion aussi. Et puis, il y a eu comme thérapeutique, les premières narco-analyses. Certains médecins ont vu que des blessés qu'on endormait avec le masque en ambrodane à l'éther, au chloroforme, au chlorodéthyle, au réveil, il y avait une crise excitatoire, et non seulement peu importe leur blessure, mais leur état psychique s'améliorait. Alors, les psychiatres ont dit, on va endormir les gens immédiatement. Ce qui fait que la narco-analyse ne date pas de 1940 avec le Sargon et Stater pour le Dunkerque, mais elle date de cette époque-là. Alors, ensuite, il y a eu Roussy et l'Hermite et Clovis Vincent en France et Kaufmann en Allemagne, les essais de déconditionnement par excitation douloureuse, pour que le sujet renonce à son symptôme.
Oui, ce qu'on appelait la faradisation, c'est ça ?
Le torpillage faradique, même. Le gouvernement autrichien a traîné Wagner-Jaurek devant les tribunaux pour ça. D'ailleurs, il y avait des gens qui sont suicidés. Et en France, Roussy d'un côté et Clovis Vincent de l'autre ont fait des procès aux patients récalcitrants. Et les patients n'ont pas gagné leur procès, mais ont été vus avec indulgence. Ce qui fait que Clovis Vincent, écœuré, a dit, puisque c'est comme ça, je demande à retourner sur le front. Et il a retourné sur le front, il s'est bien conduit. Mais il y a eu donc l'évolution des thérapeutiques de la pathologie depuis le shell-shock jusqu'aux névroses de guerre et névroses de peur, et puis des thérapeutiques à la fin beaucoup plus compréhensives quand même, dans l'armée américaine, la psychiatrie de l'avant, etc.
Voilà, et parmi ces thérapeutiques, il y avait aussi l'hypnose. Je vous propose d'écouter un extrait du film Les Fragments d'Antonin, que vous connaissez bien, je sais, Louis Croque, ce film de Gabriel Lebaumin.
L'horripilation, c'est un réflexe animal. Son cerveau est en train de décharger de l'adrénaline. Au moment d'un assaut, les hommes sentent leurs cheveux si droits, si durs, que les pointes s'écrasent contre les parois métalliques de leur casque. Les muscles sont tendus comme un arc. L'estomac est pris de contracture. Parfois, le sujet ne contrôle plus ses urines. C'est la réalité physiologique du combat. Où êtes-vous, Antonin ? Que faites-vous ?
Ernst !
Continuez.
Je ne peux plus respirer.
Où êtes-vous ? Qui est Ernst ?
La musique.
Continuez.
Luther.
Vous êtes seul ? Où sont les autres ? Qui est Ernst ?
Charcot, le...
Louis Croc, vous disiez donc, parce oui. que c'est vrai que pendant que l'extrait passait, ça évoque beaucoup de choses pour vous, et effectivement, cette hypnose a été utilisée, mais utilisée à quel moment ?
Alors, le premier qui utilisait l'hypnose dans les armées, c'est Bernheim, à Nancy, sur des soldats de Gravelotte. Et il les mettait sous hypnose pour leur faire revivre l'événement. C'était en 71 et quelques. Et un des soldats lui dit, mais docteur, effectivement, je revis l'événement. J'ai très peur, je vois mes camarades tués, mais je sais en même temps que vous êtes à côté de moi. Il y avait une espèce de dissociation de ses personnalités, ce qui permettait qu'il récupère, à partir du premier souvenir, qui était un souvenir sensoriel, il arrivait à faire un souvenir plus construit, qui pouvait inscrire entre un avant et un après. Alors après, en 14-18, beaucoup des Anglais, des Allemands et des Français ont utilisé l'hypnose, selon la méthode de Freud et Pierre Janet, faire revivre l'événement assorti de toute sa charge émotionnelle et demander au sujet d'établir des associations d'idées sur cet événement de façon à ce qu'il devienne compréhensible et qu'il puisse être inscrit dans la continuité fluide de la vie. Alors ça a marché, et en 39-45, un autre Kaufmann d'ailleurs, que j'ai connu, qui est venu au Val-de-Grâce, fait une conférence, l'a utilisé beaucoup. Hein. Et actuellement encore, c'est utilisé dans les traumatismes de la vie civile.
Alors on va poursuivre cette discussion juste après cet intermède musical. Et on vous a demandé, Louis Croc, un choix musical, et donc vous avez choisi Handel. Et alors le titre c'est Lacia.
Oh, c'est l'aria de
Pianga.
C'est un aria de. J'ai demandé qu'on passe la version chorale qui correspond bien à la souffrance. Laisse-moi pleurer.
Alors j'espère que le choix va vous convenir. En tout cas, c'est de l'opéra Rimaldo.
On peut pas rester là, mon lieutenant. Il faut traverser leur tir de barrage. Vous allez tenter une sortie. Baïonnette au canon. Baïonnette au canon, on peut passer.
Baïonnette au canon.
On peut pas laisser les Boches avancer comme ça. Il faut les repousser. Vous entendez, sergent? D'après ma carte, sur notre gauche à 900 mètres, il y a un ravin. Parfait. Il faut arriver jusque là. Je veux voir les hommes courir au petit trot.
Au petit trot. Faites passer.
Au petit trot.
Bon. Vous êtes prêts, sergent?
Je suis prêt, mon lieutenant.
Faites sonner le clairon. En avant.
Yeah.
16h. À longueur de journée.
Il est 16h35 et dans un instant, c'est la suite de la Marche des sciences sur France Culture en direct et en compagnie de Louis Croc, médecin général, psychiatre des armées et professeur honoraire à l'Université Paris 5, auteur du livre Les traumatismes psychiques de guerre, un livre paru chez Odile Jacob et puis à l'initiative justement de la sortie d'un livre qui s'intitule De la Somme à Verdun, épreuve d'un poilu de 14-18, souvenir de guerre signé par Pierre Croc. Pierre Croc qui était donc son père et le livre a été édité chez l'Harmattan et avec nous Vincent Viette, historien rattaché au Centre de Recherche Médecine, Sciences, Santé, Mentale, Société et auteur du livre Pour la Santé en Guerre 1914-1918, un livre paru aux presses de Sciences Po. Et puis toujours avec nous, en direct, Philippe Laudenbach.
À longueur de journée, les Allemands nous harcelaient de mines, de torpilles et de grenades. Le soir du 17 mars, après la nuit tombée, un de mes camarades qui était posté au fusil mitrailleur a cru apercevoir des ombres qui s'approchaient de nos lignes. Craignant une attaque surprise des Allemands, il tira une rafale dans leur direction, ce qui provoqua une violente riposte de leur part, et torpilles et grenades se mirent à pleuvoir sur notre tranchée. Une grenade éclata tout près de nous. Je fus blessé ainsi que deux de mes camarades. Les éclats m'avaient atteint aux jambes, aux bras et au visage. Tombé au sol, je ne pouvais pas me relever et je n'y voyais plus, les yeux étant touchés. Il était 23h, 11h du soir, et j'avais hâte d'être emporté par des brancardiers avant le jour, car ensuite, il ne pouvait pas s'approcher des lignes à découvert, sans compter la perspective du remue-ménage que notre contre-attaque ne manquerait pas de provoquer. Je geignais, et les autres me disaient de me taire afin de ne pas nous chercher, de ne pas nous signaler notre position aux ennemis d'en face. Enfin, les brancardiers vinrent nous chercher avant le jour 3 et une ambulance me déposa à l'hôpital de campagne de Vade-de-Lincourt. Je n'y restai que quelques jours pour les premiers pansements et fus transporté ensuite sur l'hôpital de Bar-le-Duc.
Louis Croc, quand vous entendez ce récit, parce que vous le connaissez par écrit, là c'est vrai qu'on le vit véritablement dans la chair, et vous avez aussi en mémoire l'image de votre père, parce que vous disiez au début de l'émission vous souvenir de ce corps diminué, handicapé, et en même temps vous souvenir aussi que votre père était peu dans la communication avec vous sur tous ces terrains-là. Est-ce que vous, qui avez été, de par votre carrière, médecin général, psychiatre, vous avez, à partir des années 60, reçu des poilus qui souffraient justement de cauchemars, et votre père n'a jamais été finalement un patient sur lequel vous avez jeté votre regard?
Alors, tous ces... En dehors de ceux dont on a parlé tout à l'heure, qui faisaient des hystéries de guerre, des traumatismes ou des états confusionnels, c'est la confusion de guerre, beaucoup de ceux qui avaient été blessés ou même qui avaient survécu, qui avaient eu peur, ne disaient rien. D'autant plus que en 1918, la population entière s'en est retournée à ses joies d'avant, ses occupations d'avant. On a honoré les morts, les blessés physiques, mais les blessés psychiques, ils avaient le droit de se taire et c'est tout. Alors, ils ont été honteux et pudiques, mais il s'est passé une chose. J'étais médecin commandant à Bordeaux, à l'hôpital militaire de Bordeaux, au service de psychiatrie, et mon camarade chirurgien recevait dans son service des anciens de 14-18, c'était en 1960, à peu près 62, qui étaient octogénaires à cette époque-là, et qui venaient se faire enlever des éclats d'obus qui bougeaient dans les muscles. Et alors, dans les chambrées, ces vieux de 14-18, la nuit, avaient des cauchemars horribles, ils criaient et tombaient de leur lit. Alors, les jeunes d'Algérie appelaient l'infirmière, qu'ils signalaient au chirurgien. Le chirurgien me les envoyait d'office. Le vieux, il râlait comme un pou. Il disait, je vais pas lécher les fous. Je suis pas fou. J'ai fait Verdun, c'est normal que j'ai des cauchemars. Mmh. Et quand j'interrogeais leur femme, la femme me disait que ils avaient des cauchemars très souvent la nuit, des cauchemars agités, et qu'aussi, leur vie ne s'était pas épanouie. Ils s'étaient pas développés pour l'avancement de leur carrière. Ils étaient tristes, souvent. Même quand il y a eu des petits moments de joie, ils étaient plutôt tristes, taciturnes et pudiques.
Et d'ailleurs, quand on regarde le parcours de votre père, Louis Croque, il a eu besoin de prendre de nouveaux postes. Hein. Donc, il a retrouvé un poste d'instituteur, mais il a souvent bougé, finalement. Mondol, au nord de Rennes, ensuite le Valois-Péry en 1921, Anières en 1926, Pensé, toujours près de Rennes, en 1928, Bru, en 1932, et puis Rennes, enfin, en 1936. Oui. Est-ce que là, aujourd'hui... Alors, question aussi, est-ce que vous l'avez quand même analysé un petit peu, votre père, de son vivant, vous, en tant que spécialiste, psychiatre aussi, de ses traumas, ou finalement, c'est quelque chose que vous n'avez pas fait sur lui, mais vous l'avez observé de façon consciente ou inconsciente?
Je discutais peu avec lui. Je respectais sa pudeur. Il ne parlait pas ni à mes deux frères, ni à moi. Et il savait que j'étais psychiatre, mais je ne voulais pas lui parler de ça. D'ailleurs... J'aurais jamais dû être médecin militaire. J'étais fait pour être un prof de philo. J'ai fait ma licence de philo avec Bachelard et Merleau-Ponty, puis après ma licence de psycho avec Lagache et Selzel, et ma licence de socio avec Raymond Aron et Hurwitz. C'est mon père, un ami de mon père, a dit, mais l'armée paye la médecine.
Oui, alors, c'était donc, un bon argument à l'époque.
Tu auras moins de médecins dans la famille. C'est comme ça que je me suis retrouvé dans la médecine militaire pour 40 ans. 40 ans dans l'armée, mais je ne lui parlais pas de mon travail. Et même quand j'ai été blessé en Algérie, tout ça, et lui ne parlait pas. Ça a sauté une génération, c'est à mon fils qu'il en parlait. Et lui-même est rentré en grande activité dans les associations d'anciens combattants, des gueules cassées, etc., quand il avait 70 ans. Auparavant, il était en retrait, complètement en retrait. Et vous parliez de sa carrière.
Oui.
Au début, il était à Paris. Peut-être qu'à Anières et le Valois, il avait cru qu'il pourrait avoir de l'avancement. Puis après, il s'est passé un phénomène. Il a voulu revenir dans sa province d'origine, dans un tout petit trou où il était, une classe unique. Et là, ça rappelait un peu l'atmosphère des écoles du Grand Mône. Oui.
Alors, Vincent Viette, vous écrivez à un moment dans votre livre que à recycler des corps humains, finalement, selon des méthodes tayloriennes, selon Taylor, au rendement stupéfiant, vous posez cette question-là, finalement, est-ce qu'on n'a pas quand même accéléré le processus de psychose de guerre en faisant de cette façon-là ?
Oui, sans aucun doute. Mais je voudrais quand même rebondir sur ce que vient de dire Louis Croque. Il me semble que les traumatismes psychiques, en fait, se surajoutent aux traumatismes physiques. Et ça, je pense que c'est très important parce que non seulement vous devenez infirme du fait de la guerre, vous avez donc à gérer cette infirmité dans la durée, et ce n'est pas chose facile.
Oui, et en plus,
en même temps, vous êtes poursuivi.
Et en plus, on prône, oui. Vous recevez le message délivré quand même par l'État et la nation, fondez un foyer, faites des enfants. Mais beaucoup en étaient incapables.
Oui, absolument.
C'était le message.
Oui.
Fondez un foyer, faites des enfants. C'était le message.
Oui, effectivement. Et d'ailleurs, il y a une réorganisation de l'administration française avec l'apparition d'un nouveau ministère de l'hygiène,
oui.
Et dont l'une des attributions est la relance de la natalité française. Malheureusement, on ne sait pas comment le faire et ça ne marche pas puisqu'il faut attendre le baby-boom des années 40, puisque ça commence en pleine Seconde Guerre mondiale, curieusement.
Oui. Et alors, Louis Croque, on se rend compte donc que cette prise en charge, prise en compte déjà de ce handicap psychique a mis beaucoup de temps. Il y a des réparations un petit peu pour eux au titre de la loi du 31 mars 1918, mais très peu. Il faut attendre 1992.
Parcimonieux.
Ouais.
Les barèmes reconnaissaient les blessures physiques, reconnaissaient aussi à la rigueur les états de confusion aiguë, asilaire, provoqués par une explosion. Mais tout ce qui était psychique, neurasthénique, anxieux ou hystérique était taxé de suspicion de simulation. Et aussi bien après, les révisions des années 40, c'était pareil, il a fallu attendre 1992 pour qu'on prenne modèle sur les Américains, qui avaient envoyé 3 millions d'hommes au Vietnam de 1964 à 1973. Sur 3 millions, on a 800 000 qui n'arrivaient pas à se réadapter, qui avaient des cauchemars, des sursauts, qui devenaient délinquants, etc. Alors, les Américains ont lancé à ce moment-là les Vet-Center, des consultations de multi-spécialistes avec des agents sociaux, des juristes, etc., des psychiatres et psychologues. Et ils ont quand même traité 800 000 hommes en une dizaine d'années. Et alors, c'est à ce moment-là, quelques années après, Le Weltcenter, ça s'est terminé dans les années 90, qu'en 92, le ministère des Anciens Combattants a sorti un décret qui reconnaissait officiellement les traumatismes psychiques de guerre et qui pouvait même les indemniser de 0 jusqu'à 100%. Et qui disait que c'est pas parce que les sujets ne sont pas pleins au début, il y a un temps de latence, qui sont simulateurs. Souvent, c'est après. Et toutes ces choses-là, c'était... La circulaire d'application que j'ai participé s'est montrée assez généreuse pour l'apport de la preuve pour tout cela aussi.
D'accord. Écoutons une dernière fois votre père, si vous le voulez bien. Et justement, ça dit beaucoup de choses, notamment qu'il avait gardé quelques photos de ce passage dans les hôpitaux.
J'entends pas.
J'ai conservé 2 photographies de groupe de la 30aine de soldats convalescents dont je faisais partie, prises dans le parc de l'hôpital en juin 1917. On nous y voit, disposés sur 2 ou 4 rangs, les blessés aux jambes assis ou allongés derrière leurs cannes, et les autres debout derrière. Quelques-uns sont nu-tête, et la plupart coiffés de leur képi ou de leur calot. Peu arborent le sourire heureux d'être rescapés de l'enfer. Les autres offrent une expression triste, ou grave, ou qui pire est... indifférente.
L'indifférence était à cette époque-là, hein, telle qu'il l'avait ressentie en 1917. Et à l'automne 17, il quittera l'hôpital de la Belle de Mai. Il sera dirigé sur Rennes. En mot de la fin, Louis Croque, je relèverai quand même cette phrase que vous écrivez dans le livre, justement. Vous dites « Ce sont donc des destins compromis que ces hommes partis jeunes à la guerre y ont glané avec les lauriers de la gloire ». C'est peut-être la conclusion, en tout cas, pour tous ces soldats traumatisés, psychiques, et qui, longtemps après, effectivement, ont été reconnus et dont il ne faut pas cesser de parler, si je peux me permettre. En tout cas, merci à tous les deux. Louis Croque, je rappelle le titre de ce livre, « De la Somme à Verdun, épreuve d'un poilu de 14-18, souvenir de guerre » signé par Pierre Croque. Et c'est paru chez L'Harmattan. Vincent Viette, merci à vous. Et le livre s'appelle « Pour la santé en guerre ».
La santé en guerre.
La santé. Depuis le début, je dis « pour la santé », mais parce que je suis pour que l'on connaisse votre livre, ça doit être pour ça. La santé en guerre. 1914-1918, paru aux presses de Sciences Po. Et vous restez avec nous parce que ce thème des troubles psychiques, on le poursuit.
France Culture, la marche des sciences.
Aurélie Luneau.
Et c'est la seconde partie de la marche des sciences. Actualité des sciences et de leur histoire, avec au programme une exposition qui vient d'ouvrir à la Cité des sciences et de l'industrie, en partenariat avec France Culture. Elle est intitulée « Mental désordre », une exposition sur les troubles psychiques et le regard jeté sur ceux qui en souffrent. 1 personne sur 4 en Europe. Des affections qui furent longtemps niées, occultées, maltraitées dans l'histoire.
Asile royal de Bethléem, Londres, 1753. Afin de satisfaire la curiosité d'un ami venant de la campagne, je l'ai accompagné à Bedlam, un endroit qu'autrement je ne visiterai point, car la détresse de mes concitoyens m'affecte trop pour que j'admette d'en être le spectateur. Dans une cellule, sur la paille, était assis un pauvre homme scrutant le sol dans un silencieux désespoir. Un roi, avec sa couronne de paille, disait la loi à ses sujets, et un homme parfaitement fou hurlait contre sa femme, l'accusant de l'avoir détruit.
Bonjour Xavier Briffaut.
Bonjour.
Vous êtes sociologue et épistémologue, chercheur au CNRS et membre du Haut Conseil de la Santé publique. Et donc auteur notamment du livre « La fabrique de la dépression » cher Mancolin. Il y en a un autre qui va bientôt sortir au PUG. Et le titre ?
Oui, la santé mentale au risque de la santé publique.
Et donc, on vient d'entendre un extrait, des sons qu'on peut entendre et découvrir dans cette exposition donc qui se donne à voir à la Cité des sciences et de l'industrie à Paris, Mental désordre, une exposition grand public qui se veut ludique, exploratrice, tactile. On ne cherche pas forcément à être dans le détail et la complexité des troubles psychiques, mais plutôt interpeller et puis en offrant comme ça des manipulations et au début il y a quelques petites représentations de scénettes de l'histoire qui nous montrent que cette prise en charge a mis du temps effectivement à s'établir et à bien bien cerner les troubles psychiques. Alors, dites-nous justement, qu'appelle-t-on troubles psychiques ?
Alors, c'est une excellente question et la différence qu'on va observer entre la première partie de cette émission et la deuxième nous apporte déjà des informations sur ce sujet, parce qu'on vient de parler dans la première partie de cette émission de psychiatrie de guerre et de traumatismes psychiques majeurs qui concernaient des centaines de millions, enfin des centaines de milliers, de millions de personnes qui étaient déchiquetées par des bombes. Et nous avons vu qu'il a fallu des décennies avant que ces troubles psychiques puissent être reconnus en tant que tels pour leurs conséquences sur les sujets qui en étaient atteints. Et aujourd'hui, en 2016, on a une exposition sur la santé mentale à la Cité des Sciences, où on se rend en famille pour se distraire et se cultiver éventuellement. Et donc ça dit déjà largement quelque chose de l'évolution du statut de la santé mentale dans les sociétés contemporaines. La santé mentale, aujourd'hui, c'est devenu quelque chose d'ubiquitaire, d'extrêmement répandu, important, et à propos duquel on peut beaucoup plus facilement parler qu'auparavant.
Alors ces troubles-là, je donne des chiffres quand même qui sont assez étonnants. Dans le monde, une personne sur quatre est touchée dans sa vie. En France, 1,4 million de personnes sont suivies par les services de psychiatrie publique. Et donc ces troubles-là, c'est par exemple la dépression, la bipolarité, la schizophrénie, l'anxiété, l'autisme, l'hyperactivité, les TOC, les troubles obsessionnels compulsifs, il y en a beaucoup. Les burn-out, finalement ça recouvre énormément de troubles, de dysfonctionnements, je ne sais pas comment. Comment est-ce que finalement on les appelle? Il y a différentes façons de les présenter.
Alors aujourd'hui on les appelle, en français en tout cas, des troubles mentaux. En anglais, des mental disorders. C'est ce pourquoi le titre de l'exposition, c'est mental désordre.
Oui.
Alors ce nom, mental disorders en fait, ou troubles mentaux, ça résulte d'une certaine manière d'un parti pris épistémologique qui consiste à se départir de la qualification a priori de maladie. C'est-à-dire, on ne dit plus maladie psychique, maladie mentale, on va dire troubles mentaux, pour signifier le fait que ils sont essentiellement définis par des caractéristiques cliniques, toute une symptomatologie, mais on n'a pas forcément les causes, les raisons, l'étiologie de ces troubles, ce qui fait que les appeler maladie mentale, c'est déjà leur supposer une caractéristique particulière.
Oui, et puis c'est connoté aussi avec l'image de on les met chez les fous, les cliniques psychiatriques, etc. On enferme. Il y a aussi tout cet imaginaire issu de l'histoire qui ressurgit, non ?
Oui, alors aujourd'hui, cet imaginaire, il est quand même, à mon avis, loin derrière nous. En 2007, l'INPES faisait une campagne nationale d'information sur la dépression, avec son site web, avec sa petite plaquette en couleur. Donc c'est aujourd'hui très largement diffusé dans la population. On parlait des traumatismes de guerre. Aujourd'hui, les cellules d'urgence médico-psychologiques sont convoquées à juste titre dans les cas graves, comme on l'a pu le voir récemment avec les attentats. C'est vous qui les avez créés.
Et oui, Louis Croque les a créés au moment de l'attentat du RER Saint-Michel.
Donc ça dit quand même largement quelque chose de l'évolution en un siècle entre la Première Guerre mondiale et ce dont on a la chance de bénéficier aujourd'hui.
Et en même temps, on a quand même l'impression qu'il reste des tabous et des préjugés pour qu'il y ait une telle exposition aussi, parce que elle cherche à déstigmatiser. Donc, est-ce que ça dit quelque chose aussi sur les tabous et les préjugés ?
La déstigmatisation, c'est le terme qu'on emploie fréquemment pour parler des troubles mentaux. D'une certaine manière, c'est un peu performatif de considérer les choses sous cet angle-là. C'est-à-dire, à partir du moment où on dit qu'il faut déstigmatiser, ça présuppose qu'il y a d'emblée une stigmatisation. Et la méthode qu'on a choisie pour déstigmatiser, c'est de démoraliser le trouble. C'est-à-dire qu'on l'a sorti du cadre moral. Les troubles mentaux, c'était la méchanceté, la paresse, le diable, la perversion. Et on l'a placé dans le cadre de la médecine et de la biologie. Donc aujourd'hui, on essaye de déstigmatiser en biologisant. C'est-à-dire, on dit, si une personne est dépressive, ce n'est pas parce qu'elle est paresseuse, c'est parce qu'elle a une carence en sérotonine. Donc la logique, enfin le trope qui est derrière, c'est ce n'est pas moi, c'est mon cerveau. Alors ça a un certain nombre d'avantages.
C'est bien ou c'est pas bien ?
Voilà, certaines études montrent que ça n'a pas forcément l'effet déstigmatisant qu'on aimerait que ça ait. Parce que en biologisant le trouble, finalement, ça a un peu tendance à l'essentialiser aussi. C'est-à-dire que finalement, ça va devenir l'essence de la personne, que son cerveau dysfonctionne. Et finalement, on voit pas bien pourquoi.
Et que du coup, il y a rien à faire. Voilà, et peut-être exactement. Que ça. Et alors que chacun doit être acteur de sa sortie du trouble.
Alors chacun doit, si on le positionne comme ça, ça devient normatif, mais en tout cas chacun peut l'être parce que aujourd'hui on a de nombreuses solutions. Alors thérapeutiques, psychothérapeutiques, pharmacologiques, psychoéducatives, qui concernent non seulement la personne, mais les proches, les collègues, parce que ce qui est extrêmement important, c'est, on va dire, la prise en charge de l'impact de ces troubles dans la vie quotidienne.
Oui.
Et la réduction du handicap qui est associé à ces troubles psychiques. Donc aujourd'hui, on est, je pense, au stade où on peut commencer à se préoccuper de la prise en charge et la diminution des conséquences des troubles par tout un tas de méthodes qui sont thérapeutiques, qui sont réglementaires, législatives, qui peuvent être éventuellement technologiques. Et c'est là, je pense, qu'il y a quelque chose de très important à faire sur la prise en charge des conséquences du handicap associé aux troubles psychiques.
Et c'est pour ça que vous parlez de ces interactions entre corps, esprit et société ? Ou c'est tout autre chose, c'est-à-dire c'est alors, plus le rôle de l'environnement sur les affections.
Alors, c'est un peu plus complexe que ça, c'est-à-dire qu'en fait, tous les troubles mentaux sont ce qu'on appelle classiquement biopsychosociaux. Mais la logique biopsychosociale, on a souvent tendance à en faire un petit saucisson, c'est-à-dire c'est un peu de bio, un peu de psycho, un peu de socio, un peu de génétique, mais on voit pas bien l'articulation de ça. On serait, à mon avis, mieux avisé de les considérer comme socio-psychobiologiques, puisque l'être humain est avant tout un animal social, et donc il est toujours pris en société. Et donc, effectivement, les troubles mentaux vont souvent attenter à la capacité à vivre en société. Et dans les sociétés contemporaines occidentales, industrialisées, qui sont extrêmement complexes, c'est extrêmement exigeant sur les compétences qui sont requises pour pouvoir y fonctionner. C'est pour ça que Alain Ehrenberg dit fréquemment que la santé mentale est une raison d'agir. Parce que dans les sociétés de l'autonomie, où l'autonomie est normative, toute atteinte à l'autonomie devient une raison impérative d'agir pour pallier à ces dysfonctionnements. C'est ce pourquoi, en particulier, la santé publique s'intéresse beaucoup à la santé mentale.
Alors, dernière question, est-ce qu'une prévention est possible ? Parce qu'aujourd'hui, on sent qu'il y a une analyse, une finesse d'analyse d'ailleurs, de détection aussi des pathologies. On connaît bien ce terrain-là. Prévention ?
Oui, la prévention est possible à plusieurs niveaux. Alors, on remonte de plus en plus aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à la prévention précoce, à l'école par exemple. Alors, l'exposition dont on parle, Mental Désordre, est d'origine finlandaise. Et dans les pays d'Europe du Nord, on a beaucoup de programmes à l'école de développement des compétences dites psychosociales. On a moins ça en France, même si on commence à y travailler. Mais on s'intéresse aussi à la prévention ultra précoce, c'est-à-dire la prévention sur les parents pour prévenir les désordres de santé mentale des enfants pas encore nés. Et là, il faut quand même réfléchir à deux fois à ce qu'on fait.
Bon, mais vous reviendrez nous en parler. Absolument. En tout cas, hein, Xavier Briffaut, merci à vous. Je rappelle le titre de votre livre disponible pour l'heure, La fabrique de la dépression, Charmant Collin, et un autre en préparation. Et cette exposition, Mental Désordre, à voir à la Cité des sciences et de l'industrie de Paris jusqu'au 6 novembre. Et les informations et les liens, comme d'habitude, sont à retrouver sur le site internet de l'émission franceculture.fr, rubrique La marche des sciences. Vous pouvez réécouter l'émission, la télécharger, nous suivre sur Twitter et sur Facebook. Et c'est la fin de la marche des sciences. Merci de votre fidélité. Mission préparée avec Catherine Donnet et Anaï Morales pour les archives. À la réalisation, Alexandra Malka. À la technique, Jean Guilamège. La semaine prochaine, à ne pas rater, dans une semaine spéciale science et catastrophe à l'occasion des 30 ans de Tchernobyl, nous serons notamment en compagnie de l'ethnologue Françoise Zonabonne. Elle fera un retour avec nous sur son enquête menée à La Hague peu avant Tchernobyl et sur le silence que génère le nucléaire quand l'histoire éclaire le présent. Et demain, autre rendez-vous de Culture Science à 16h avec Michel Alberganti et Sciences Publiques. Et il vous parlera de la façon de vivre avec une maladie psychique. Comment vivre avec une maladie psychique, c'est son thème en lien justement avec l'exposition Mental Désordre. Et dans un instant, à 17h, suite de vos programmes avec Hervé Gardette.